Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, aujourd'hui lundi 28 avril, l'avenir de l'Ukraine au cœur de déclarations de menaces et de pressions de plus en plus nombreuses. La Russie répète que Volodymyr Zelensky doit avant toute chose renoncer à la Crimée annexée en 2014. Donald Trump dit croire que le président ukrainien y est prêt au début d'une semaine qu'il présente comme cruciale, mais rien ne l'indique à Kiev pour le moment. Alors quel accord possible? Les discussions peuvent-elles encore durer? Le rapport de force sur le terrain le permet-il? Nous poserons ces questions à notre invité dans trois quarts d'heure. À la une également les élections législatives au Canada, scrutin anticipé très marqué par les tensions en cours avec les États-Unis de Donald Trump. Il s'agit pour les électeurs de choisir celui qui pourra tenir tête au président américain et pour l'heure, c'est Mark Carney, le Premier ministre par intérim, qui est donné favori. Nous appellerons notre reporter à 13h, temps universel, et nous verrons que les Canadiens vont plus loin que choisir simplement le bon représentant politique dans leur bras de fer avec les États-Unis. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à boycotter le pays voisin, comme cette vacancière qui a réorganisé son voyage à la dernière minute pour rester dans son pays.
On doit montrer la fierté canadienne. Je ne peux pas changer grand-chose, mais je peux choisir où dépenser mon argent.
Reportage au Canada à écouter dans un peu plus d'une heure. Nous irons aussi en Haïti où le choléra refait surface. Des cas signalés récemment dans plusieurs camps de déplacés de la capitale. Des populations sans ressources qui se débrouillent comme elles peuvent, sans aucune aide de l'État pour faire face à la maladie.
Même si nous n'avons pas les moyens, nous nous efforçons de trouver de l'argent pour acheter du chlore afin de désinfecter l'espace. Nous ne recevons aucune aide qui pourrait nous permettre de lutter contre la maladie. C'est seulement hier qu'un groupe de personnes a visité les lieux et distribué des pastilles pour purifier l'eau. Après, plus rien.
Reportage de notre correspondant à Port-au-Prince. Vous pourrez l'entendre dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques tout à l'heure à 13h, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour.
Avec pour commencer la fin d'une traque policière.
Oui, elle s'est terminée trois jours après le meurtre à coups de couteau d'un jeune Malien dans une mosquée proche de Montpellier dans le sud de la France. L'auteur présumé s'est rendu de lui-même dans un commissariat de police à Pistoia dans le centre de l'Italie. On sait peu de choses de lui, si ce n'est qu'il a 21 ans, qu'il est né à Lyon et qu'il est de nationalité française. Un juge d'instruction va être saisi et un mandat d'arrêt européen émis en vue de son transfèrement en France. Sur le réseau X, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a félicité chaleureusement les magistrats et les enquêteurs qui ont fait preuve, selon lui, d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme. Écoutons maintenant la réaction de la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas. Elle défend le ministre qui a été la cible de critiques ce week-end.
Penser que Bruno Retailleau néglige ce fait qui est extrêmement lourd pour la société et pour notre, et qui dit beaucoup de la violence qui s'exerce aujourd'hui dans notre société, penser qu'il néglige cela est vraiment indigne également. Bruno Retailleau est très déterminé à lutter contre toutes les formes de ségrégation, de stigmatisation et de violence contre quelques communautés que ce soit, y compris, bien entendu, sur nos compatriotes musulmans. Donc je pense que là aussi, on est dans la polémique. Tout ça mérite un peu plus de hauteur.
La porte-parole du gouvernement au micro de Raphaël Delvolvé, c'était ce matin à l'issue d'un conseil des ministres avancé à ce lundi, et non pas mercredi, en raison d'un déplacement du président Macron. Avant de refermer ce dossier, je vous propose d'écouter une autre réaction, celle de la députée écologiste Sabrina Sebei, auteure d'un rapport sur l'islamophobie. Ce meurtre dans une mosquée est selon elle le résultat d'un climat de plus en plus hostile vis-à-vis des Français musulmans.
Ça fait des semaines, des mois, des années que tout le monde alerte sur le climat ambiant dans notre pays, sur cette islamophobie rampante qu'on a sur les plateaux de télévision qui sont véhiculés par les hommes et les femmes politiques, par les médias. Et c'est vrai qu'au moment où on a remis le rapport et on avait fait ces auditions, on avait dit que la question de l'islamophobie était totalement sous-estimée dans notre pays, qu'il y avait un danger et que le fait de mettre une cible dans le dos des musulmans dans notre pays allait contribuer à augmenter les violences et que surtout tous les textes qui étaient proposés ces dernières semaines, ces derniers mois, ne stigmatisaient qu'une partie de nos concitoyens, à savoir les Français de confession musulmane. Donc en réalité, on avait créé toutes les conditions d'un cocktail qui ne, malheureusement ne peut conduire qu'à ce type de drame.
Sabrina Sebeilly au micro d'Aurélien Devernois. Toujours en France, une vaste opération de police ce matin, 15 jours après les premières attaques mystérieuses au nom du groupe DDPF comme défense des prisonniers français. 25 personnes ont été interpellées ou extraites de leurs cellules en région parisienne, à Marseille, Lyon et à Bordeaux. Dans cette affaire, c'est le parquet national antiterroriste qui s'est saisi.
Dans l'actualité également, les élections au Canada.
Des élections législatives anticipées dans ce pays du G7 avec en position de favori deux hommes qui peuvent prétendre au poste de Premier ministre, le candidat libéral et actuel Premier ministre Marc Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre. Selon les derniers sondages, les libéraux sont crédités de 42,8% des voix et les conservateurs de 38,8%. À cela, il faut ajouter un troisième homme qui, lui, ne figure pas dans les bulletins de vote, mais dans toutes les têtes, c'est le président américain Donald Trump. Il aura hanté la campagne avec son offensive lancée contre son voisin du Nord, grand partenaire commercial et allié de longue date. La campagne a été dominée par les tensions avec les États-Unis, si bien que l'immigration a été à peine abordée. Longtemps célébrée comme une terre d'accueil, le Canada a récemment durci le ton sur cette question. Quel que soit le vainqueur du scrutin aujourd'hui, la direction est claire, Nafia Liber.
Pierre Poilievre, Mark Carney, Jagmeet Singh et François Blanchet, quatre candidats pour quatre partis et une idée commune, mieux encadrer l'immigration. À chacun sa raison, pénurie de logements, pression sur les services sociaux, besoin du marché du travail, un Canada plus sélectif s'impose comme le nouveau consensus. La professeure Marie-Thérèse Chicha, elle, y voit une dérive.
On peut appeler ça du populisme, bien sûr.
À ses yeux, les migrants ne fragilisent pas les services publics, ils viennent souvent les renforcer dans les hôpitaux, dans les écoles, les centres communautaires.
C'est ça l'illogisme de ces changements en politique, parce que même les entreprises ont besoin des travailleurs étrangers. Alors qu'il y a ces besoins, on ferme le robinet à double tour, ce qui va accentuer les problèmes.
Libéraux et conservateurs veulent réduire les arrivées, renforcer les contrôles, accélérer les déportations pour réajuster un système d'immigration qu'ils jugent incontrôlable. Pour l'avocat Laurent Greener, le problème est ailleurs, c'est la lenteur du système, en partie pour les demandeurs d'asile. Il plaide pour plus de ressources pour accélérer le traitement des dossiers de ses clients.
On en appelle au gouvernement du Canada qui a cette responsabilité.
Et surtout, mieux protéger les droits des migrants les plus vulnérables. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Au Canada, les premiers résultats des législatives doivent être connus quelques heures après la clôture du vote. Il sera 19h sur la côte pacifique, 2h temps universel la nuit prochaine. La Russie n'est pas opposée à l'ouverture de négociations de paix avec l'Ukraine, mais par la voix du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, elle pose ses conditions. La reconnaissance par la communauté internationale de l'annexion russe de la Crimée et d'autres régions d'Ukraine. De son côté, la Corée du Nord a pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie. Au total, et d'après Kiev, près de 14 000 soldats dépêchés depuis le mois de novembre. Ils ont aidé Moscou à reprendre aux Ukrainiens des parties de la région de Koursk dont ils s'étaient emparés l'an dernier. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Après des mois de silence, c'est au travers de ces médias d'État que le régime nord-coréen reconnaît son intervention dans le conflit aux côtés des forces russes. Pyongyang affirme que l'envoi de ses troupes est un exemple de l'amitié stratégique avec Moscou et qualifie de héros ses soldats. Un déploiement coûteux en vie pour le régime qui essuierait déjà près de 4000 pertes. Pour ces hommes tombés au combat, le leader nord-coréen Kim Jong-un promet d'ériger un monument en leur mémoire dans la capitale, Pyongyang, où les familles pourront se recueillir. Cette reconnaissance de la participation nord-coréenne au conflit intervient deux jours après que la Russie a elle aussi confirmé la présence des troupes du régime ermite à Koursk, un moyen pour la Corée du Nord d'officialiser son intervention et de demander une compensation matérielle à Moscou. Invité par Vladimir Poutine, Kim Jong-un pourrait se rendre en Russie dans les prochaines semaines. C'est Sergio Fioretti, Séoul, RFI.
Qui, pour succéder au pape François à la tête de l'Église catholique et son 1,4 milliard de fidèles, la réponse appartient aux cardinaux électeurs réunis en conclave, réunion à huis clos des princes de l'Église, comme on appelle ces prélats. On vient de l'apprendre, le conclave commencera le 7 mai.
Ce ne sont pas les conventions internationales les plus connues.
Et pourtant, elles sont capitales pour notre santé et celle de la planète. À partir d'aujourd'hui, les États parties aux conventions BRS pour Bâle, Rotterdam et Stockholm, ces réunions commencent à Genève. Leur rôle, gérer les déchets chimiques dangereux et les interdire, le cas échéant, à l'heure où l'on découvre chaque jour ou presque l'étendue du scandale des polluants dits éternels. Les enjeux de cette réunion avec notre correspondant en Suisse, Jérémy Lanche.
Trois polluants éternels pourraient être inscrits sur la liste noire de la Convention de Stockholm, un pesticide et deux substances utilisées dans l'industrie et les produits de consommation courante comme les cosmétiques et les emballages alimentaires. Ce sont les fameux PFAS, sauf que des dérogations existent quand il n'y a pas d'alternative. Ce que regrette la juriste Giulia Carlini, elle suit les négociations pour l'ONG Ciel, le Centre pour le droit international de l'environnement.
Je vois ça comme un premier pas, mais le type d'action qui serait nécessaire, c'est en fait une prohibition à 360 degrés parce que la production même de PFAS laisse de la contamination où il y a des sites de production. On l'a vu partout en Europe.
L'autre faiblesse, si on peut dire des conventions, c'est la règle du consensus. Et puis, il y a les lobbies de l'industrie, de la chimie, du plastique qui peuvent faire pression sur un ou plusieurs États. Le plastique, d'ailleurs, il n'est pas techniquement au menu des discussions, mais il en sera quand même question.
Dans 3 mois à Genève, on aura la négociation d'un futur traité plastique, comme ce type de conventions ont parfois le même délégué. Ça pourrait être aussi important pour voir les problèmes liés au futur traité plastique.
Et on suivra aussi la position des États-Unis, même absent des négociations. Ils pourraient jouer les troubles faits en coulisses, alors que Donald Trump veut doper la production d'hydrocarbures et revenir au tout plastique. Genève, Jérémy Lanche, RFI.
Avant de conclure, de nouvelles en bref. D'abord, une frappe américaine particulièrement meurtrière la nuit dernière à Sadaa, fief des rebelles houthis dans le nord du Yémen. Elle a coûté la vie de 68 Africains et blessé 47 autres dans un centre de détention pour migrants. Depuis la mi-mars, les forces américaines pilonnent pratiquement tous les jours les rebelles houthis. Et puis avec un total d'au moins 46 morts, le bilan s'est encore alourdi ce matin en Iran. Les pompiers iraniens tentent toujours de venir à bout de l'immense incendie qui ravage le plus grand port du pays. L'explosion survenue samedi a aussi fait plus d'un millier de blessés. Bonne journée sur RFI. Elle continue avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. À tout à l'heure. On commence par l'actualité en France et une opération de police dans plusieurs villes ce matin.
RFI. La France à midi.
Une vingtaine d'interpellations déjà, Alexandra Cagnard, 2 semaines après des attaques mystérieuses contre différentes prisons du pays. Qu'est-ce qu'on sait de l'opération en cours ?
Eh bien, annoncé qu'elle a débuté à l'aube de manière conjointe en région parisienne, à Marseille, Lyon et Bordeaux. Résultat d'investigation menée au cours des 2 dernières semaines par près de 200 enquêteurs. Une opération qui a donc conduit à 25 arrestations. Et on sait aussi que 5 des personnes interpellées étaient en détention. Elles ont donc été extraites de leur prison pour être placées en garde à vue.
Et c'est le parquet national antiterroriste qui est chargé de l'enquête.
Le PNAT qui précise que depuis 15 jours, 260 scellés ont été analysés par la police scientifique, 10 millions d'identifiants téléphoniques passés au crible. Il indique également que des perquisitions sont toujours en cours et que les investigations ont permis des avancées significatives afin d'identifier les personnes ayant pu commettre les faits. Et sur les commanditaires également, sans plus de précision pour le moment. Des enquêtes de flagrance ont été ouvertes, notamment pour associations de malfaiteurs terroristes en vue de préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visées, mais aussi pour menaces de mort à l'encontre des personnes exerçant une fonction publique.
Oui, parce que ces dernières semaines, Alexandra, plusieurs établissements ont été visés, ainsi que les domiciles de personnel pénitentiaire.
Une quinzaine de faits qui ont eu lieu entre le 13 et le 21 avril dernier. La première attaque s'est passée sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen, dans le sud-ouest de la France, où 7 véhicules ont été incendiés. Même chose le lendemain, devant 4 maisons d'arrêt et un centre pénitentiaire. Des voitures brûlées, là encore, dont la plupart appartenaient à des surveillants ou du personnel des prisons visées. Cela a continué les 2 jours suivants, mais cette fois, les domiciles de certains agents ont été pris pour cible, notamment en Seine-et-Marne et dans les Bouches-du-Rhône, jusqu'au 21 avril, où des cocktails Molotov ont été lancés en direction de 2 maisons d'un lotissement de l'Isère, où résident plusieurs agents pénitentiaires.
Des actions, la plupart du temps, concomitantes, et souvent signées En tout cas, sortie de l'inscription DDPF.
DDPF pour Défense des droits des prisonniers français. Ce sigle a été retrouvé sur plusieurs sites. Une organisation militante, jusque-là inconnue des services de renseignement français, qui proteste contre le recours aux fouilles des détenus jugés humiliantes et la surpopulation carcérale. Le 12 avril dernier, un canal de discussion à ce nom s'était créé sur le réseau de messagerie cryptée Telegram, publiant des vidéos et des messages de menaces. Telegram les a depuis supprimés et a fermé ce canal.
Et ça n'était pas la seule piste suivie par les enquêteurs.
En tout cas, les ministres français de l'Intérieur et de la Justice y voyaient dès le début la main des narcotrafiquants. D'ailleurs, dans leur communiqué commun, le PNAT et la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée indiquent que les faits sont susceptibles de s'inscrire dans la très grande criminalité organisée. Sur son compte X, Bruno Retailleau salue l'action des magistrats et des enquêteurs. Propos similaires pour Gérald Darmanin, qui au début des attaques évoquait une réponse aux récentes mesures voulues par le gouvernement français dans la lutte contre le narcotrafic, et notamment l'annonce de l'ouverture très prochainement de deux prisons de haute sécurité, l'une dans le département de l'Orne, l'autre dans celui du Pas-de-Calais. Les sénateurs et les députés s'apprêtent à voter cette semaine la loi destinée à renforcer la lutte contre les narcotrafiquants.
Merci Alexandra Cagnard.
RFI Midi.
Comme chaque jour, entretien avec une personnalité politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui Pierre-Henri Dumont, ancien député et secrétaire général adjoint du Parti Les Républicains.
Bonjour Pierre-Henri Dumont.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI. On va revenir sur la bataille qui s'intensifie pour la présidence de votre parti, Les Républicains. Élection dans 3 semaines maintenant. Mais pour commencer, ce drame abominable qui agite la classe politique, le meurtre d'un jeune musulman, Abou Bakar, dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Le meurtrier présumé vient de se rendre, mais la polémique politique ne retombe pas. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a accusé hier le ministre de l'Intérieur LR, Bruno Retailleau, d'alimenter le climat anti-musulman, accusation reprise également aujourd'hui par l'ensemble de la gauche. Pierre-Henri Dumont, que vous inspirent ces accusations et comment déjà qualifiez-vous ce meurtre? Est-ce pour vous un crime islamophobe?
Bah écoutez, déjà, l'ensemble des Républicains, et ça a été d'ailleurs dit de façon très forte, y compris par le ministre de l'Intérieur qui était hier sur les lieux du drame, ont une pensée et adressent leurs condoléances à la famille et aux proches d'Abou Bakar Cissé qui a été assassiné dans le Gard, vous l'avez dit. Nous, en tout cas, on réfute le terme d'islamophobe pour une raison qui est très simple. C'est que ce terme, et de dire que c'est un crime islamophobe, c'est utiliser ce terme d'islamophobie qui a été inventé par le régime des mollahs en Iran et qui vise qu'une seule chose, c'est à diviser la société française qui, normalement, constitutionnellement, est une et indivisible. Et donc, les propos qui sont tenus aujourd'hui par l'ensemble de la gauche radicale hier avec des appels factieux à la sédition qui ont été prononcés place de la République par des cadres de la France insoumise ou par des députés de la France insoumise hier, sont des propos qui sont intolérables. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit qu'il allait saisir les autorités compétentes suite à ces propos. Et la réalité, c'est que il faut bien que l'on comprenne que la lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire contre une forme de terrorisme, ne peut pas être assimilée comme le font la gauche extrême, comme le fait LFI, comme le fait Jean-Luc Mélenchon pour des questions électorales, à une volonté de taper sur la religion de nos compatriotes français musulmans. C'est absolument pas le cas. Chacun est libre d'avoir sa religion, de pratiquer la religion qu'il le désire.
Je reviens sur ces accusations faites contre Bruno Retailleau d'alimenter le climat anti-musulman. La gauche pointe notamment du doigt cette injonction du ministre à bas le voile, hein, même. Il a précisé que c'était dans le cadre des compétitions sportives, hein, pas dans l'espace public. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu être perçu comme une agression par les femmes qui portent le voile?
Non mais pardon, il n'y a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est dans les chartes de l'olympisme, il doit y avoir une neutralité religieuse. Et donc le voile est évidemment un signe religieux, c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avions interdit. Pas nous, mais l'ensemble de la classe politique dès 2004 dans les écoles. Donc si on estime que le voile est un objet religieux, de prosélytisme religieux, parce que ce qui est sûr, c'est que 100% des islamistes désirent que les femmes soient voilées. Et quand vous voyez la lutte héroïque des femmes en Iran, qui pour certaines sont assassinées parce qu'elles retirent le voile, on comprend bien qu'il y a un enjeu, qui est un enjeu qui dépasse le simple enjeu de guerre de communication et de scission de la société qu'est en train de mener la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. C'est un enjeu civilisationnel. Donc quand on dit que dans un espace qui est un espace protégé, qui est celui des compétitions sportives, parce qu'elles sont régies par des lois, par un cadre qui est le cadre associatif, qui est celui de la République, il ne peut pas y avoir de voile parce que c'est le même cadre que celui scolaire, et ben on est typiquement dans cette discussion qui a été celle, pardon, pas la nôtre, pas celle de Bruno Retailleau, mais celle de Jacques Chirac, qui, je pense, on pouvait difficilement accuser d'être critique à l'encontre et de nos compatriotes français musulmans.
Vous dites, LFI fait l'amalgame entre les islamistes et les musulmans.
Non, j'ai dit LFI cherche à faire penser que la lutte contre l'islamisme qui est menée par Bruno Retailleau, en particulier au ministère de l'Intérieur, n'est pas une lutte contre l'islamisme, mais est une lutte contre tous les musulmans. Ce qui est profondément scandaleux parce que ça essentialise les musulmans, nos compatriotes français musulmans, et ça scinde la société en plusieurs parties pour des gains électoraux. Normalement, la République, je répète, est une et indivisible, quelle que soit la religion, si on en a une ou si on n'en a pas.
Vous dénoncez donc le communautarisme des insoumis, c'est ça ?
Le communautarisme d'une part, et puis, je vous le dis, ce qu'ils sont en train de faire insuffler dans l'esprit de nos compatriotes musulmans, qui est que la lutte, qui est une lutte nécessaire, obligatoire, contre ce terrorisme islamiste qui a fait tant de morts sur notre territoire et ailleurs, c'est une lutte qui est essentielle, et la façon dont ils sont en train de le présenter, c'est que ce n'est pas une lutte contre l'islamisme qui est menée, mais c'est une lutte contre nos compatriotes musulmans, contre le principe qu'ils puissent mener leur vie telle qu'ils ont envie de la mener, avec la religion dont ils ont envie d'être les fidèles et les croyants, ce qui est évidemment pas du tout le cas de ce que nous menons. Mener la lutte contre l'islamisme, c'est pas du tout mener une lutte contre nos compatriotes musulmans, et contre le fait que chacun est libre de choisir sa religion, de la pratiquer comme il le désire.
Pierre-Henri Dumont, il n'en reste pas moins que le ministre Retailleau a tout de même mis deux jours avant de se rendre à Alès. Pourquoi un tel retard? Et est-ce que bien ça n'alimente pas ce sentiment d'un deux poids, deux mesures pour nos compatriotes musulmans?
Bruno Retailleau a immédiatement condamné.
Bien sûr, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, il a immédiatement condamné dans les minutes qui ont suivi cette attaque. Et donc,
ça suffisait. À votre sens, ça suffisait.
Mais il a été sur place et pardon de le dire.
Venue rapide du ministre aurait pu rassurer les gens, leur apporter leur soutien? Est-ce que ce n'aurait pas été préférable?
Le rôle à ce moment-là du ministre de l'Intérieur était d'abord de mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour retrouver l'auteur des faits. La réalité, c'est que l'auteur était en fuite. Et donc, le meilleur moyen de faire en sorte que cet acte barbare soit puni, c'est de retrouver l'auteur des faits, ce qui a été fait. C'est ensuite d'établir le mobile. Et là, c'est les services de police et d'enquête qui sont en cours. Et donc, à partir de là, l'urgence était là. Je vous le redis, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a, dans les minutes qui ont suivi la prise de connaissance de cet acte, qui est un acte inqualifiable, qui est un meurtre, et la police devra établir le motif de cet assassinat, le ministre a, dès qu'il a eu connaissance, signifié toute la peine, toute l'émotion qui était la sienne et le plein et entier soutien de l'ensemble de la nation pour les proches de la victime, sa famille et ceux qui sont les fidèles de la mosquée.
Voilà, c'était un soutien, mais de loin, alors on va dire, c'est ça?
Mais il a été sur place. Il a pas un don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministre de l'Intérieur.
Pour des réunions publiques en vue de la présidence du parti, quand même. Hein,
le ministre de l'Intérieur, oui, mais vous êtes en train de faire un faux procès à Bruno Retailleau. Vous pouvez ne pas être
d'accord
politiquement
avec lui. Non, c'est pas un procès, ce sont que des faits, là.
Mais dans ces cas-là, on peut reprendre, vous qui faites l'avocate de la gauche et de la gauche extrême.
Non, c'est pas mon cas.
Si vous reprenez exactement les mêmes termes, on peut très bien dire que, alors que le ministre de l'Intérieur a exactement les mêmes types de propos, quelles que soient les victimes des attaques qui sont menées, que ce soit dans une église, que ce soit dans une mosquée, que ce soit pour des faits religieux ou non, est toujours présent de la même façon, ce qui n'est pas le cas de la gauche, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui se précipite pour fracturer la société dès qu'on a un drame qui touche la communauté musulmane et dès qu'il y a un drame qui touche la communauté chrétienne, pas un mot.
L'actualité de votre parti, les Républicains, Pierre-Henri Dumont, c'est également l'élection pour la présidence LR dans 3 semaines maintenant, 17-18 mai prochain, avec une bataille qui s'intensifie entre Bruno Retailleau, que vous soutenez, et Laurent Wauquiez, qui multiplie, lui, de son côté, les attaques et dénonçant notamment hier l'explosion de l'insécurité en France. Est-ce que ça vise pas directement son concurrent, le ministre de l'Intérieur, Retailleau?
Écoutez, il y a une logique qui est celle d'une campagne interne, et donc Laurent Wauquiez cherche, parce qu'il est outsider, et on sait très bien, et on voit les rapports de force au sein du parti, à marquer sa différence avec Bruno Retailleau. Bon, moi je le regrette, voilà. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire des choses qui sont fausses en plus, puisque l'action du ministre de l'Intérieur, depuis qu'il est à Beauvau, Bruno Retailleau, montre qu'il y a une hausse des expulsions des étrangers en situation irrégulière, montre que les chiffres, qui sont les chiffres globaux de la délinquance, commencent et tendent à diminuer. Et donc, laisser penser, pour des questions de querelles internes, alors qu'ils sont d'accord sur 90% des sujets, c'est évident, puisque ils sont tous les deux membres du même parti, ça, c'est quelque chose qui ne va pas ni dans le sens d'un apaisement, ni dans le sens d'une campagne sereine.
Et ils sont d'accord pour être en désaccord, hein, contre la suppression de l'abattement de 10% pour les impôts des retraités, contre la réflexion sur la proportionnelle. Est-ce que vous pensez, en tout cas Laurent Wauquiez pointe ce possible conflit d'intérêts, est-ce que si Bruno Retailleau prend la tête des LR tout en restant au gouvernement avec son devoir de solidarité, il n'y aura pas ce conflit d'intérêts?
Écoutez, vous pouvez reprocher beaucoup de choses à Bruno Retailleau, vous, de façon générale, hein, pas vous personnellement, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il a une colonne vertébrale et qu'il a toujours défendu les mêmes idées. Il n'a jamais changé de cap. Certains lui ont d'ailleurs reproché. Et donc, ce qui est sûr, c'est que s'il estime qu'il y a un conflit entre son devoir de solidarité vis-à-vis du gouvernement et sa position, je sais qu'il prendra la décision qui s'impose. Mais s'il y a un débat au sein du gouvernement, il est évidemment certain qu'un ministre de l'Intérieur, qui est aussi haut dans l'ordre hiérarchique, aussi haut dans l'importance des attentes des Français, qui est en même temps chef du parti, qui est le premier parti aujourd'hui au Parlement, quand on additionne les députés et les sénateurs, puisque aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Assemblée est tellement éclatée que c'est le Sénat qui a la main sur beaucoup de textes, il a beaucoup plus de poids, Bruno Retailleau, en étant chef du parti pour gagner des arbitrages politiques, plutôt qu'en étant simple ministre de l'Intérieur. Donc en étant ministre de l'Intérieur et chef de parti, au contraire, ça renforce son poids, ça permettra de gagner des arbitrages sans aller au clash et en les gagnant bien avant les questionnements qu'il y a à avoir avec le Premier ministre.
Merci Pierre-Henri Dumont, bonne journée.
Les médecins français sont en grève aujourd'hui avant des manifestations prévues demain dans tout le pays. Ils dénoncent la volonté du gouvernement d'imposer certaines contraintes. Ils s'opposent à la loi adoptée au début du mois qui prévoit d'obliger les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux. Des mesures nécessaires car aujourd'hui, 8 millions de Français vivent sans médecin généraliste, attitré Laurence Théo.
C'est un constat qui fait l'unanimité. Il y a une pénurie de médecins en France et contrairement aux idées reçues, cela ne concerne pas que le milieu rural. 87% du territoire est sous-doté. À titre d'exemple, excepté 3 ou 4 arrondissements, Paris, la capitale, est un désert médical. Yves Nibel, interne en médecine générale, rappelle qu'il y a eu une baisse considérable de la formation des médecins.
Dans les années 90, au lieu d'en former 8000 comme au début, on en formait plus que 3500 sur plusieurs années, pour des raisons qui étaient sûrement peut-être des visées économiques. Donc maintenant, en fait, même si on a augmenté et on a supprimé le numerus clausus, on n'a pas formé suffisamment de médecins pendant 15-20 ans et c'est cette réalité-là qu'on est en train de vivre maintenant.
Quand on sait qu'il faut 10 ans pour former un praticien. Pour son confrère Nicolas Virginie, interne lui aussi, contraindre les jeunes médecins à s'installer là où ils ne le souhaitent pas n'est pas la solution.
C'est quelque chose qui peut faire peur à certains. On peut en fait juste encore plus diminuer notre effectif puisqu'il y a des gens qui, par peur de ne pas pouvoir construire la vie qu'ils voulaient construire, etc., vont se dire peut-être que je ne ferai pas de la médecine générale puisqu'au final il n'y a plus ce que je cherchais dans cette spécialité. Et donc est-ce qu'on répond vraiment à la question par une obligation alors qu'on est plutôt dans une question de manque ? Je ne pense pas.
Elle est présidente du syndicat des jeunes médecins. Anne Boctor exerce à Nice. Elle insiste sur ce qui lui paraît être une évidence.
Quand on regarde les territoires qui sont extrêmement peu dotés, et d'ailleurs des déserts tout court, parce que vous savez bien que c'est un abandon un peu de l'État de ces territoires. C'est qu'il n'y a pas de services publics, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de commerce. Donc c'est comment veut-on s'établir en tant que jeune, avec une famille, avec du travail à trouver pour son conjoint ou sa conjointe, des écoles pour ses enfants, comme n'importe quel Français, si je puis dire, on ne va pas s'installer là-bas.
Autre argument, la pédiatre précise que les internes ne sont pas formés à la médecine libérale.
Ce qu'on ignore nous fait peur. La peur des charges, la peur de la gestion de tout ce qui entoure le cabinet, mais aussi la peur de l'exercice isolé.
C'est un médecin qui a de l'expérience. Malouel Pinault est chirurgien maxillofacial dans le nord de la France, à Lille. Il avance quelques idées pour remédier à la crise.
Il faudrait qu'il y ait plus de médecins. Il faudrait aider à l'intégration des médecins étrangers, les PADU. Il faudrait faciliter l'installation en libéral et les remplacements en libéral de nos jeunes confrères qui ne demandent que ça. Ensuite, on pourrait, sur du moyen terme, trouver des solutions pour pouvoir se réapproprier ces déserts médicaux.
Internes, médecins et syndicats refusent un contrôle de l'État sur la profession médicale qui, selon eux, doit rester indépendante pour le bien des patients.
Reportage de Laurence Théot.